sur cette connerie?
C'est le canu info. Ah,
ah okay. Je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débattre ton permis contre la volée et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est qu'un mille infos.
Bonsoir.
Canu Info du vendredi avec un petit retard, mais on débarque et on va commencer ce soir avec les informations locales, avec un entretien avec la famille de Mehdi qui est mort à Vénissieux parce qu'il était poursuivi par la police.
Ensuite, ce sera un petit reportage sur la grève du personnel de l'urgence sociale.
On ira ensuite au niveau national et on parlera de Rémi Fraisse puisqu'on va peut-être faire un non-lieu.
Et puis on abordera encore la question du CETA puisqu'il y a une manifestation contre ce traité demain.
Et après on ira dans la vallée de la Roya où la répression redouble.
Et puis on passera à la rubrique internationale avec une information sur les dépénalisations des violences familiales en Russie. Oui, oui.
Et on vous parlera aussi de la Women's March à Washington.
Pour finir avec l'agenda, si on a le temps.
Ok, et bien maintenant on va enchaîner direct avec la rubrique locale.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Ouvrez les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous les bouge en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. En chantant résiste.
Alors, on a rencontré, c'était dimanche dernier, la famille de Mehdi qui est mort à Vénissieux après une course-poursuite pendant la une nuit à la mi-décembre. On a enregistré donc un entretien avec cette famille et puis avec l'un des garçons qui était sur le scooter avec Mehdi ce soir-là. On vous laisse écouter.
On était posé, tranquillou, père, entre amis et tout. Il était vers les alentours de 4h, 5h du matin quand on s'apprêtait à chacun rentrer chez nous. Malheureusement, on a été pris en chasse par un équipage de police qui semblait, je sais pas comment vous dire.
Mais vous étiez pris en chasse, vous étiez sur quoi comme véhicule?
Sur un scooter, on était trois.
Radio Canu, reportage.
Je m'appelle Mahmoud, j'habite à Vanvelin, voilà. Je voudrais revenir par rapport à ce qui s'était passé le 10 décembre. Vers les alentours de Vénissieux, là-bas, on a été pris en chasse par la police, moi et un ami à moi qui s'appelle Midji. Et avec un autre ami, on était trois, il s'appelle Karim. On a été pris en chasse par la police, et qui a entraîné un accident mortel, et que justice n'a pas été faite. Je me souviens qu'ils étaient bien derrière nous, et mon collègue, mon ami, qui était juste derrière moi, lui sentait le pare-choc de la voiture. Il était collé à la plaque du scooter. Il était vraiment collé. Ouais, sur plusieurs dizaines de mètres. Bah, cette course, ça s'est fini. À la fin, on a fait un accident et très, 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 très grave qui a entraîné quelqu'un qui est mort.
Est-ce que tu pourrais te présenter?
Bonjour. Moi, je m'appelle Ahmed. Je suis le beau-frère de la personne qui est partie. J'ai su ça à 8h du matin. Dimanche 11 décembre, Nous sommes partis avec l'épouse de mon beau-frère à l'hôpital. On a attendu énormément pour qu'on nous donne une réponse. Je suis parti sur les lieux de l'accident le jour même, dans l'après-midi. J'ai vu des débris du scooter. J'avais posé un bouquet de fleurs. On l'a enlevé. Il y avait une patrouille de police municipale et une patrouille de là-bas qui tournait à côté. Alors que c'était un lieu, voilà, on était là pour se consoler comme on pouvait. J'ai vu des articles comme Radio Espace, qu'ils avaient mis des articles par rapport qui étaient tout faux. Je me suis permis de les appeler pour leur dire que ce qu'ils ont mis, c'est pas vrai.
Qu'est-ce qu'ils mettaient alors en fait ?
Qu'ils ont mis comme quoi que c'est eux qui sont rentrés dans la police. Ils ont mis une photo où c'est une moto, alors que c'est un scooter. Ils ont dit comme quoi que c'est eux qui sont en faute, c'est les jeunes qui étaient sur scooter. Et donc voilà, et c'est pas normal. Donc je les ai appelés, ils m'ont dit que c'était la police qui leur avait donné ces versions-là. Je leur ai dit que c'est pas la vraie version. J'aurais dit que clairement ils ont donné leur version à eux, pour pas dire qu'ils sont en faute. Et nous on le vit mal, que ce soit la famille, les proches, sa femme, c'est très dur. Parce que le jour du décès, je me rappellerai toujours, à l'hôpital il y avait beaucoup de policiers pour un décès.
Pendant l'accident, en fait, je me rappelais plus de rien. J'ai eu un choc à la tête et j'ai eu un trou noir, un flash. Et je me suis réveillé. On était à l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Ils sont venus le jour même, quelques heures après l'accident. Ils sont venus pour me faire une déposition que j'étais pas apte mentalement.
Donc,
et physiquement.
La police est venue, c'est ça ?
Ouais, ils sont venus pour m'interroger, comment ça s'est fait passer, tout ça. Et franchement, je me rappelais de rien. J'étais encore sous choc. Tu sais. Et
ils ont pris une déposition à ce moment-là ?
Ils ont voulu prendre une déposition, mais je me rappelle que je les ai rien dit. Hein, je les ai pas parlé. À aucun moment, je les regardais fixés et je disais pas à moi. J'étais encore sous le choc, je venais de me faire opérer.
Et le troisième copain, lui est arrivé quoi ?
Lui est arrivé, il s'est cassé le fémur, qui s'est fait opérer lui aussi. Hein. C'était très très grave aussi.
Une voiture de pompier qui arrive 15 minutes après, alors que c'était 5h30 du matin. Si ça roule facilement, on ne peut pas dire que ça ne roulait pas. Et ils ont mis énormément de temps. Pour 15 minutes, c'est énorme.
Je suis Yamina, la sœur de Mehdi. Je suis arrivée à Grange Blanche, donc on m'a fait attendre pendant une bonne heure, je pense. C'était au service de chocage, des chocages. Ensuite, donc au bout de trois quarts d'heure, une heure, il y a un médecin qui est venu m'expliquer que mon frère était décédé. Et j'ai pas eu le temps de quoi que ce soit, que j'avais je ne sais pas combien de policiers dans le couloir, un commissaire qui venait me raconter sa version des faits. Donc le commissaire nous indique que suite à un essai de contrôle, donc mon frère est décédé, qu'il n'y a pas eu de course-poursuite, qu'il n'y a pas eu de gyrophare, qu'il n'y a pas eu de mise en danger, qu'il n'y a rien eu du tout, en gros qu'il est mort tout seul. Ils n'ont pas compris, il a accéléré, il a coupé la route à la voiture de police et il s'est encastré dans un mur. Donc suite à ça, j'ai été au commissariat de Marius Berrier où j'ai été très bien reçue par deux commissaires de la police judiciaire. Qui m'ont expliqué là par contre que effectivement finalement il y a quand même eu les gyrophares que voilà, mais qui comprenaient pas pourquoi il avait coupé la route aux policiers, il s'était parti s'encastrer dans un mur. Quelques jours après, donc je me suis re-rendue au commissariat de Marius où là le ton a changé, un peu comme si j'étais moi-même coupable d'un délit ou de autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas, pas comme une sœur qui venait récupérer les affaires de son frère qui venait de décéder.
Je suis la compagne à Mehdi. Marius Berrier, quand on est parti pour récupérer ses affaires, on a été très mal reçus. On s'est fait limite insulter, en fait. On en dirait des enfants dans une école qu'on engueulait. Et ça s'est passé. Ils nous ont fait attendre une demi-heure en bas et on comprenait pas comment ça se fait que, alors qu'ils venaient d'enlever la scellée sur Mehdi. Du coup, nous on voulait le voir le plus vite possible. Et dès qu'on est monté, on leur a demandé comment ça se fait. Donc là, il nous a dit que ouais, il était au téléphone avec le procureur, donc c'est pour ça qu'il était sur notre affaire. Donc moi, je lui ai gentiment dit que autant pour nous, que on savait pas, mais vous auriez pu nous le dire.
au lieu de nous parler comme vous parlez. Après, il y a le policier d'à côté qui s'est mis à s'énerver. Donc, je lui ai dit d'arrêter de me parler comme ça, alors que je ne parlais même pas à lui déjà. Et ensuite, là, c'est là où il m'a dit que, qu'il était chez lui ici et qu'il faisait ce qu'il veut. Donc, voilà.
Le policier t'a dit...
Je suis chez moi ici. Non, ouais, clairement, il me l'a très bien... Il m'a dit, je suis chez moi ici, je fais ce que je veux. Et moi, je lui ai dit, moi aussi, je suis chez moi ici.
Et le dossier, il a été classé... Enfin, vous y avez accès ou...
Non, on n'a pas accès. Encore aujourd'hui, on ne sait pas... on ne sait rien du tout, en fait. Rien de rien. Rien, vraiment rien du tout.
Parce que lorsqu'on a été voir l'IGPN, l'IGPN n'a pas été mandaté sur ce dossier. Donc, c'est la brigade de la route du 3-6 qui a été. Donc, pour eux, c'est un banal accident de la route. Le scooter n'a pas été expertisé, ils n'en voyaient pas l'intérêt, ça coûte cher, enfin, c'est ce qui nous a été dit au commissariat. Et que comme ça, on ne fait pas, l'État ne fait pas expertiser lorsque c'est un accident de la route. Voilà. Donc en aucun cas, la police est en tort ou à se reprocher quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, voilà, on organise une marche, déjà en sa mémoire pour nous, la famille, essayer de déjà de faire notre deuil, et voilà, mais aussi pour demander l'ouverture d'une enquête et la nomination d'un juge d'instruction pour qu'il y ait une enquête impartiale qui soit ouverte et qu'on arrête toujours que cette justice qui est toujours que dans un sens, hein, moi, de toute façon, voilà, c'est...
Donc il faut que la vérité elle sorte. En fait ils essaient de tout mettre à terre pour que la famille lâche, dit ouais c'est trop long, mais nous on lâchera pas. Il y avoir une marche le 28 janvier, mais juste avant ça il faudra venir nombreux pour la marche de Adama Traoré le 22 janvier à 14h, place Jean Massé. Toute personne qui veut que justice soit faite, venez.
Voilà, donc on vient d'entendre la famille de Mehdi et ce dernier appel, on le rappelle donc une deuxième fois, il y a une manifestation donc contre les violences policières et notamment en soutien à Adama Traoré. Il y en a eu une aujourd'hui à Saint-Étienne, il y en a une demain à Grenoble et à Lyon. C'est donc départ dimanche à 14h de la place Jean Massé. Et le week-end d'après, il y aura donc une marche blanche pour que justice et vérité soient faites pour Mehdi, ce garçon des initiés dont on vient de parler. Elle partira de l'endroit où il y a eu l'impact, on vous redonnera exactement les coordonnées, et elle s'acheminera jusqu'au commissariat Marius Berlier. Voilà.
On t'est posé, tranquillou, père entre amis.
J'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canut Info, la rubrique droit au logement.
La question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète.
Et oui, la rubrique logement dans le Canut Info, parce que la semaine dernière, on vous parlait des flics qui arrachent les couvertures aux sans-abri à Paris. Et dans la même semaine, l'UNSA Police, syndicat incroyable, déclarait « Alors que des dizaines de Français, quelle que soit leur origine, sexe ou religion, meurent chaque année de faim, de maladie ou de froid dans l'indifférence la plus totale, l'UNSA Police s'interroge sur la proportion qu'ont ces associations à défendre en priorité les clandestins. » Eh bien, les associations associations qui défendent les clandestins, donc c'est-à-dire finalement tout simplement le SAMU social, les professionnels d'urgence sociale et toutes les personnes qui participent à l'hébergement d'urgence, étaient en grève ce jeudi à Lyon. Ils ont fait un rassemblement sur la place de la République avec des petites pancartes sur lesquelles on pouvait écrire, on pouvait lire, enfin, qui était écrit le gymnase, Sénat, je partage ma chambre avec 140 personnes, mourrez, vous aurez une place au chaud, et autre message incroyable, les micros du Canu Info du vendredi étaient sur place. Sache, cher auditeur, chère auditrice, que peut-être il y a un petit peu de souffle sur l'enregistrement, mais encore une fois, c'est rien de plus que le vent de la révolte qui souffle sur les micros de Radio Canu.
Des carences alimentaires, de l'insécurité permanente, des agressions à répétition, de la mésestime de soi et de la peur de l'autre, du froid, de la canicule, de la pluie, des expulsions permanentes de l'espace public, de l'invisibilité ou de l'absence d'intimité, et surtout de solitude.
Les solutions mises en œuvre aujourd'hui dans les foyers, les hôtels, les gymnases ne sont pas satisfaisantes en termes d'alimentation, d'accessibilité, d'hygiène et de salubrité. La plupart des hébergements n'offrent pas non plus des conditions satisfaisantes pour le respect de l'intimité des personnes et ne garantissent pas non plus la possibilité de prendre en compte pleinement les situations de handicap et de problématiques de santé. Enfin, les solutions mises en place durant la période hivernale sont souvent très éloignées et mettent en péril la stabilité et le parcours des personnes, notamment concernant la scolarisation des enfants. D'autres solutions sont possibles. 2017, respect des politiques envers les sans-abri, plus personne dans la rue. Que le 115 puisse proposer une solution à chaque appel.
On est place de la République pour un rassemblement à cause du plan froid et de la manière dont c'est géré par la préfecture. Est-ce que tu peux présenter le collectif dont tu fais partie et pourquoi vous êtes ici?
Du coup, moi je m'appelle Nawel, je suis éducatrice au SAMU social. Du coup, là c'est en tant que SAMU social qu'on est en grève. Et aussi en tant que collectif des professionnels de l'urgence sociale, où là, ça rassemble des personnes qui peuvent travailler en centre d'hébergement, en accueil de jour, voilà, dans différents dispositifs. Et aujourd'hui, en tant que SAMU social, on est en grève pour dénoncer le manque d'hébergement et pour dire qu'à Lyon, au jour d'aujourd'hui, les annonces ministérielles ne sont pas respectées, à savoir que personne ne dormirait dehors. On ne peut pas se laisser on peut pas laisser dire qu'à Lyon aujourd'hui personne dort dehors quand on sait qu'hier plus de 200 personnes ont contacté le 115 et se sont rien vu proposer. Aussi et surtout dire que un gymnase ça représente en rien une réponse satisfaisante, c'est une mise à l'abri temporaire. Les gens vont retourner dehors dans quelques jours, dehors où toutes leurs affaires auront été enlevées, donc dans une précarité encore plus grande que celle qu'ils connaissaient avant. Et voilà, ce qu'on demande, c'est l'ouverture de 2000 places d'hébergement Perrin dans le Rhône.
Parce que c'est à peu près le nombre de personnes qui est estimé à être dans la rue, c'est ça?
C'est le nombre que la FNARS a annoncé fin décembre. Après, de toute façon, les chiffres, les acteurs de terrain, ils peuvent les donner. Et 2000, on est bien en deçà des besoins.
Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais me donner des détails sur ce que c'est en fait l'hébergement en plan froid?
Alors, les hébergements plan froid, c'est des places à l'hôtel, c'est des lieux qui ouvrent. Alors, il n'y a pas grand-chose dans Lyon. Il y a Givors, Châtillon d'Azergues, Thésée, Il y a l'ancien site de train de nuit sur lequel il y a eu des bungalows qui ont été remis. Du coup, les prises en charge plan froid, généralement, c'est surtout la nuitée. Dans certains lieux, il y a les repas. Mais voilà, c'est quand même à bas prix, les hébergements plan froid.
Et du coup, il n'y a aucun suivi social une fois qu'ils sont dans des lieux.
Ça dépend des structures. Mais comme l'idée, c'est de faire au moins cher, il y a forcément très peu de professionnels sur place.
Et du coup, les problèmes pour les gens, c'est d'être éloignés de là où ils avaient avant. Enfin, du coup, ils étaient sur Lyon à la base et là, ils se sont envoyés loin.
Là, oui, c'est honteux que ce soit aussi loin pour aussi peu de temps. Là, on envoie des gens aujourd'hui à Châtillon-d'Azergues avec un contrat pour le 31 mars. Du coup, qu'est-ce qu'ils font de leurs enfants? Ils les laissent scolariser à Lyon, ils les déscolarisent pour les scolariser là-bas, sauf que le temps de les scolariser, potentiellement, le plan froid, il sera terminé. On n'est pas sûr que ce soit pérennisé, on n'est pas sûr que ça continue à l'issue de l'hiver. Du coup, ça pose plein de questions et c'est très compliqué pour les familles.
Parce que la préfecture, là, elle a annoncé aucun engagement pour la...
Pour l'instant, c'est jusqu'au 31 mars.
Ok. Et concrètement, du coup, ça se passe comment? Parce que... Les personnes appellent le 115, il n'y a pas de place. Et du coup, quand il y a des places qui ouvrent, est-ce que c'est vous qui recontactez les gens qui sont sur une liste? Ou est-ce que c'est quand les gens appellent, ils ont de la chance et ça tombe au bon moment?
Alors là, quand il y a eu des gymnases, a priori, il y a eu aussi des gens qui ont appelé le 115 qui ont pu avoir des places. Mais sinon, c'est effectivement des places programmées en fonction des personnes qui sont priorisées sur des critères de vulnérabilité. Et du coup, ces personnes, soit elles sont rappelées lorsque c'est le cas, soit c'est les professionnels avec qui connaissent, qui sont en lien avec la personne, un lieu de domiciliation... Une maison du Rhône qui est contactée pour contacter la famille, soit effectivement à la marche ça peut être le SAMU social qui cherche la famille pour les prévenir d'une place.
Et comment on priorise les gens qui sont à la rue?
Alors ça, si seulement on savait.
Oui, je sais que vous voulez pas faire de priorisation, mais du coup on vous demande quels critères.
Nous on veut pas, on fait pas. Dans la commission urgence ils font comme ils peuvent, mais après il peut pas exister de critères de vulnérabilité, donc c'est l'âge des enfants, des pathologies de santé, mais après il n'y a pas de médecin, enfin comment on décide de qu'est-ce qui est plus grave, c'est pas possible en fait, enfin il n'y a pas de critères établis, à la fois heureusement parce que là on toucherait quand même des limites.
Ouais.
Merci.
Car on est si petit, du jour au lendemain on perdra tout le bien, on se retrouve à la rue.
Que l'hébergement ne soit plus envisagé que comme un toit, mais bien comme un habitat. Un habitat permettant d'avoir des relations sociales, de se nourrir correctement, de se soigner convenablement, de scolariser de manière satisfaisante ses enfants, d'accéder au transport, à la culture, de pouvoir travailler, etc. Ainsi, nous souhaitons que des moyens conséquents soient alloués à l'urgence sociale pour compenser toutes ces années d'oubli. Pour que, main dans la main, d'un commun accord, la ministre du Logement, le préfet de région, la directrice de la cohésion sociale, le président de la métropole, les acteurs de terrain et les habitants, nous revenions à la ville de Lyon, son rayonnement, sans délaisser les plus fragiles. Pour notre part, vous le voyez, nous sommes convaincus que des mesures sont possibles et doivent être prises. Nous sommes bien décidés à poursuivre dans cette voie-là et cette année, nous allons y consacrer toute notre énergie. Bonne année !
Et oui, ça c'était hier. Donc hier aussi, la ministre du Logement nous expliquait qu'il n'y a plus personne à la rue, que toutes les personnes qui demandent à être hébergées sont hébergées. Donc il faut se rappeler quand même qu'il y a, par exemple, juste à Lyon, 2000 personnes qui appellent tous les jours le 115 et qui n'ont pas de solution proposée. Et que dans le même temps, il y a plus de 20 000 logements vides à Lyon. Du coup, suite à ce rassemblement, une délégation du collectif des professionnels de l'urgence sociale a été reçue par le préfet. Il revendiquait la réquisition de bâtiments publics, la mise en place d'hébergements pérennes, dignes et adaptés, et la fin de la mascarade des chiffres. Le préfet délégué pour l'égalité des chances a bien entendu accepté toutes ces revendications. Non, sans rire, il a complètement refusé, mais il a proposé la mise en place. Enfin, je dis, ouais, si, il a proposé la mise en place d'un groupe de travail pour un meilleur dialogue entre acteurs de terrain et autorités compétentes. Alors, bon, ce groupe de travail, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il va être mis en place. Hein, il va être mis en place un jour, on ne sait pas quand. Et puis, bah, on ne sait pas. Bon, on va essayer de le mettre en place, en tout cas, quoi. Mais donc voilà, tout ça, ça se passait à Lyon. Et donc je rappelle, il y a 20 000 logements vides à Lyon.
Canu Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Ce soir, dans les informations nationales, on va reparler de violences policières et plus précisément ici de violences des gendarmes. Ça fait 2 ans que Rémi Fraisse a été tué par un gendarme dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 sur le site du projet de barrage de Sivens. D'après les informations du Monde, les deux juges toulousaines saisis de l'enquête sur sa mort ont communiqué leur dossier au procureur de la République le 11 janvier afin qu'il prenne ses réquisitions. C'est une procédure préalable à la clôture de l'instruction et sa famille craint qu'elle débouche sur un non-lieu. Les 2 années d'enquête n'ont en tout cas mené jusqu'à présent à aucune mise en examen. Le gendarme auteur du tir de grenade offensive dont l'explosion a causé la mort de Rémi Fraisse a été placé sous le statut de témoin assisté en mars 2016 et interrogé une seule fois par les juges. Le préfet du Tarn de l'époque n'a pour sa part jamais été entendu par les juges. Son rôle, en tant que responsable du dispositif de maintien de l'ordre, est pourtant central. Dans un avis publié le 1er décembre, le défenseur des droits considère ainsi que
« Le manque de clarté des instructions données aux militaires déployés sur la zone
et
l'absence de toute autorité civile au moment du drame
avait
conduit les forces de l'ordre à privilégier la défense de la zone sur toute autre considération sans qu'il soit envisagé à aucun moment de se retirer. »
Ce soir-là, 23 grenades offensives ont été employées par les gendarmes mobiles.
La famille de Rémi Fraisse devait déposer 2 plaintes mercredi 18 janvier. L'une pour homicide involontaire à l'encontre du préfet Thierry Gentilhomme et de son chef de cabinet Yves Matisse. Cette plainte vise également un gendarme, chef de l'enquête sur la mort du militant, qui est accusé de subornation de témoins. La seconde plainte est déposée à l'encontre de 3 gendarmes, dont l'auteur du tir mortel de grenade pour faux témoignage du fait de contradictions apparues dans leurs différentes auditions. Jean-Pierre Fraisse, le père de Rémi, explique.
Nous souhaitons que cette affaire ne soit pas enterrée. Nous espérons encore que la justice en France est capable de faire éclater la vérité. Mais nous commençons sérieusement à en douter.
La famille, comme elle peut le faire jusqu'à la clôture de l'instruction, devrait également déposer mercredi plusieurs demandes d'actes d'enquête auprès des juges toulousaines. Jusqu'à présent, toutes leurs demandes ont été refusées. Certains actes ont finalement été réalisés par les juges, d'autres pas, comme par exemple l'organisation d'une reconstitution ou l'audition de l'ancien préfet. Pour le père de Rémi Fraisse,
depuis le début, on sent bien que le contexte local est pesant et on pense que ça ne permet pas une instruction sereine et complète.
La situation sur le barrage de Sivens a été tendue lorsque Rémi Fraisse a été tué. Le chantier du barrage a débuté depuis début septembre. Sur le site, les gendarmes mettent le feu aux affaires de certains militants. Le 7 octobre 2014, une jeune femme de 25 ans a été grièvement blessée à la main en ramassant une grenade jetée à l'intérieur de sa caravane par un gendarme.
Une députée du Tarn insiste auprès du préfet pour que les violences des gendarmes s'arrêtent. Le préfet dit vouloir faire baisser la pression. Son directeur de cabinet fait pourtant état de considérations qui traduisent une lecture pour le moins surprenante de la situation. Il tient ainsi ses propos surréalistes.
Il y a des personnes qui clairement se rattachent à la mouvance islamiste radicale. J'ai été accueilli au cri de Allahu Akbar par des gens qui portaient manifestement un drapeau de l'État islamique.
Comme précisé dans la plainte que va déposer leur avocat, Maître Halimi, la famille de Rémi Fraisse considère que le préfet était informé de la gravité de la situation sur place. Pourtant, il n'était pas présent sur les lieux et se serait contenté de donner des instructions floues, incomprises par les unités opérationnelles. Cette série de négligences et d'imprudences constitue, aux yeux de l'avocat, une faute caractérisée d'une particulière gravité. Dans sa plainte, la famille Fraisse vise également le capitaine de gendarmerie, Jean-Luc M., chef de l'enquête sur la mort de Rémi Fraisse pour des faits de subornation de témoins. Certains auraient délibérément été ignorés, d'autres malmenés, au point de faire état d'une crainte à s'exprimer. La seconde plainte, déposée cette fois au tribunal de grande instance de Paris, dénonce des faux témoignages qu'auraient commis trois gendarmes. Lors de leurs différentes auditions, ces derniers ont dénaturé la nature des faits à base de contradictions et d'omissions, de façon intentionnelle.
Le gendarme Jean-Luc A dit par exemple dans une première audition qu'il a
donné l'ordre au chef J de jeter une grenade.
Un mois plus tard, il rectifie.
Ce n'était pas un ordre direct, hein, il n'y avait pas de consigne donnée.
Quant à l'auteur du tir, Jean-Christophe J, il évolue également dans ses déclarations, notamment à propos des précautions mises en avant lors de lancer la grenade ou des sommations effectuées. Pour mettre à limite, il s'agit d'une
altération volontaire de la vérité.
Par ailleurs, le gendarme, auteur du tir de grenade qui a grièvement blessé à la main la mitaine dans sa caravane, a été mis en examen le mardi 17 janvier, donc cette semaine, par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse. Ce sous-officier est mis en cause pour des faits de violence, avec la circonstance aggravante qu'ils ont été commis avec armes et par personne dépositaire de l'autorité publique.
Quelles que soient les suites judiciaires de la mort de Rémi Fraisse, on n'oubliera en tout cas pas les rôles joués dans cette affaire, qui n'a rien d'une bavure ou d'un incident, par les gendarmes,
le préfet,
les députés PS du Tarn,
le procureur et enfin Bernard Cazeneuve,
Manuel Valls
et tout le gouvernement.
On n'oublie pas,
on ne pardonne pas.
Et bien après cette très belle reconstitution de ce qui se passe en ce moment autour du procès de Rémi Fraisse, on va vous lire un texte qu'on a trouvé sur le site Stop TAFTA, parce que la lutte contre le TAFTA et contre le CETA, même si on en parle peu souvent, est quand même une lutte très importante et qui continue à être menée. Et notamment, il y a des manifestations parties en Europe demain, dont à Lyon.
Nous, la société civile, les organisations de base, les mouvements syndicaux, les agriculteurs, les groupes environnementaux et sociaux de toute l'Europe appelons à une journée européenne d'action décentralisée contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA ou ASCG en français, le 21 janvier, et à d'autres actions décentralisées et mobilisations avant le vote du Parlement européen le 2 février.
Tout au long des négociations et de la phase de vérification juridique du texte, nous avons dénoncé à maintes reprises les graves problèmes que pose le texte de l'accord. Nous avons fait des propositions concrètes qui cherchaient à démocratiser nos politiques commerciales et à les rendre plus transparentes, tout en les recentrant sur la protection de l'environnement et la défense des droits humains fondamentaux. Mais, comme en fait foi le texte de l'ASCG CETA, tel que signé en octobre 2016, nos inquiétudes sont restées lettres mortes et c'est pourquoi nous nous opposons résolument à sa ratification.
Des deux côtés de l'Atlantique, provenant entre autres des milieux syndicaux, agricoles, environnementaux, de défense des consommateurs, de la santé publique, des droits sur Internet, un large éventail d'organisations sociales ainsi que des petites et moyennes entreprises, PME, s'opposent à l'accord. Nous voulons souligner certaines de nos préoccupations fondamentales concernant l'accord tel qu'il est signé.
La SCG CETA donnerait à des milliers d'entreprises le pouvoir de poursuivre des gouvernements et contester les mesures légitimes et non discriminatoires qu'ils adoptent pour protéger le droit des peuples et la planète. Rien dans l'entente ou dans les déclarations d'accompagnement n'empêcherait les entreprises d'utiliser les droits qu'accorde la SCG CETA aux investisseurs et qui leur permettent d'intimider les décideurs et de les influencer en leur faveur quand ils réglementent en fonction de l'intérêt public, par exemple en matière de lutte au changement climatique. Contrairement aux droits des entreprises, la SCG CETA inclut des dispositions sur les droits du travail et sur le développement durable qui ne peuvent être appliquées de façon contraignante et efficace au moyen de sanctions. Elles demeurent des affirmations vides, sans effet sur les dangers que les autres chapitres de l'accord posent aux droits des travailleurs, à la protection de l'environnement et aux mesures visant à atténuer le changement climatique.
La SCG CETA limite de façon drastique la capacité des gouvernements de créer, développer et réglementer les services publics et de les ramener dans le domaine public en cas d'échec, délibéralisation et privatisation. La SCG CETA est le premier accord de l'Union européenne où la libéralisation des services est la règle et où les réglementations publiques sont l'exception. L'accord menace l'accès des populations à des services de qualité dans des domaines comme ceux de l'eau, du transport, de la santé et des programmes sociaux, et mine des efforts pour développer des services publics qui répondent à des objectifs d'intérêt général.
Une étude indépendante des impacts économiques de la SCG CETA prédit que des emplois seraient perdus tant au Canada qu'en Europe, que la croissance économique serait plus lente qu'en l'absence d'accord, et que les gains en revenus seraient non seulement faibles, mais qu'ils iraient largement aux détenteurs de capitaux, aux dépens des travailleuses et des travailleurs. En conséquence, on prévoit que les inégalités sous le régime de l'ASCG-CETA seront plus grandes que sans lui. L'ASCG-CETA rendrait le Canada et l'Union européenne plus vulnérables aux crises financières, en libéralisant encore davantage les marchés financiers et en limitant drastiquement la portée des réformes qui touchent aux principales causes de l'instabilité financière et qui assurent une meilleure protection des consommateurs et de l'économie en général.
Au Canada, l'ASCG-CETA aurait pour effet d'augmenter le coût des médicaments de marque d'au moins 850 millions de dollars par année, c'est-à-dire 583 millions d'euros. De plus, l'accord aurait un impact négatif sur plusieurs droits fondamentaux, dont le droit à la vie privée et à la protection des données, et restreindrait la capacité de l'Union européenne et du Canada de moduler les droits démesurés des propriétés intellectuelles des pays quand ils limitent l'accès au savoir et à l'innovation. Certains des pays ressemblent de près au texte de l'accord commercial anti-contrefaçon, ACTA en anglais, qui a été rejeté par le Parlement européen en 2012.
Des deux côtés de l'Atlantique, l'ASCG-CETA soumettrait les agriculteurs à la pression de la concurrence, avec un impact négatif sur leurs moyens de subsistance, sans gain substantiel pour les consommatrices et les consommateurs, augmenterait le contrôle des transnationales sur les semences, ferait obstacle aux politiques d'achat local des aliments, menacerait les hauts standards de production et de transformation alimentaire, et minerait les efforts pour développer une agriculture durable et respectueuse de l'environnement.
L'ASCG-CETA est l'aboutissement d'un processus de négociation qui a été mené de façon secrète par le précédent gouvernement canadien et la précédente Commission européenne. Le texte final de l'ASCG et les déclarations qui l'accompagnent ont pratiquement ignoré l'ensemble des amendements raisonnables et très spécifiques proposés par la société civile afin de corriger les déficiences de l'accord.
Dans son état actuel, l'ASCG-CETA n'est pas un accord de commerce progressiste. Ce serait une erreur d'adopter ce traité et les inquiétantes dispositions qu'il comporte, en s'en servant comme modèle pour négocier des accords futurs. L'ASCG-CETA est une version rétrograde et encore plus intrusive dans l'ancien programme de libre-échange conçu pour les plus grandes transnationales du monde. Nous avons besoin d'un changement de paradigme vers une politique commerciale transparente et inclusive, fondée sur les besoins des peuples et de la planète.
Ratifier l'ASCG-CETA nous éloignera d'un tel changement, aujourd'hui grandement nécessaire. Afin de faire entendre ces messages avant le vote du Parlement européen, nous appelons les organisations de la société civile et les citoyens à organiser des actions décentralisées à travers l'Europe le 21 janvier 2017. Nous appelons à multiplier les lieux et les formes d'action afin d'encourager les citoyens et citoyennes à s'informer, à s'engager et à se mobiliser localement contre la ratification de cet accord.
Vous l'avez compris, on pourrait encore vous en parler pendant longtemps, mais vous pouvez aller sur le site www.stop-tafta.org ou net, je ne sais plus, pour vous renseigner. En tout cas, il y a une manifestation demain. Le rendez-vous est donné à 14h place Bellecour pour une déambulation ponctuée d'animations visuelles et sonores. Venir avec sa casserole, entamant de la démocratie, etc. En tout cas, c'est important de rappeler que c'est une lutte qui existe encore, c'est une lutte qui se mène aussi au niveau européen, mais aussi au niveau local, et qu'elle a une importance très grande, puisqu'elle aura des répercussions très réelles sur la vie de chacun et chacune.
Et pour continuer, on va rester dans l'information nationale et vous parler de la vallée de la Roya. On en avait déjà parlé dans le Canu Info. Il y a notamment un agriculteur, je crois, là-bas, qui est connu pour avoir aidé les migrants et pour avoir été perquisitionné déjà au moins deux fois. C'est une troisième fois, donc, cette semaine.
Tout à fait. Du coup, la vallée de la Roya est, une fois n'est pas coutume, sous le feu des projecteurs. Et on entend parler de Cédric Héroux, petit producteur local. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les vallées de la Roya? Hier et aujourd'hui, la répression redouble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, une vingtaine de gendarmes, armés et casqués, se sont rendus hier, jeudi 19 janvier, dans la ferme de Cédric Héroux, dont on vous a déjà beaucoup parlé, mais qui fait aussi la une des journaux plus mainstream nationaux.
Et qui se situe donc dans le sud-est de la France, à la frontière franco-italienne.
Tout à fait. Et donc, Cédric Héroux qui apporte son aide aux migrants qui franchissent donc la frontière franco-italienne. Et ce vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? En plus, la journaliste rédactrice en chef du mensuel L'Âge de Fer a été placée en garde à vue à la police aux frontières de Menton. Du coup, retour sur cette répression dans la vallée de la Roya qui touche autant les agriculteurs que les journalistes. Alors, pour commencer par Cédric Héroux, l'homme qui aide les migrants. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Une vingtaine de gendarmes, armés, casqués, donc, se sont rendus dans la ferme de cet agriculteur de la vallée de la Roya, qui apporte son aide aux migrants qui franchissent la frontière franco-italienne. Chez Cédric Héron, on commence à avoir l'habitude des perquisitions. Alors que ce militant qui aide les migrants à entrer, circuler et séjourner en France est interpellé pour la troisième fois mercredi soir, ses proches attendent patiemment les gendarmes dans sa maison. Jeudi, c'est depuis le jardin, autour d'un plat de pâtes et d'œufs durs, qu'ils ont vu déferler une vingtaine d'agents casqués, armés et les nerfs à vif. Des gendarmes venus perquisitionner l'habitation, le terrain et les véhicules de la figure emblématique de l'aide aux migrants de la vallée de la Roya, à une cinquantaine de kilomètres de Nice. À 16h30, dans cette maison de Breil, donc Breil c'est dans la vallée de la Roya, Marie s'est isolée avec Nasser, derrière un rideau. Cette infirmière de Médecins du Monde soigne une plaie à la malléole et s'occupe du mal de gorge de ce jeune Soudanais. Dehors, Morgan, le frère de Cédric, Lucille et Émile, deux militants, et deux mineurs étrangers patientent. Ils débarrassent la table. Dans le même temps, en contrebas, deux fourgons et cinq voitures de force de l'ordre se garent au pied de la propriété. Venus pour une perquisition, les gendarmes grimpent en colonne et en petite foulée sur le terrain de Cédric Héroux. 15 d'entre eux sont casqués, visières baissées, gilets pare-balles et armes à portée de la main. Faut quand même vous imaginer, la vallée de la Roya, c'est quand même un truc perdu, c'est en flanc de montagne avec une maison tous les 30 mètres, des fleurs et des pierres, quoi. En quelques minutes, ils écartent le photographe de Libération à l'aide d'une clé de bras, puis le maintiendront à terre un quart d'heure plus tard, et passent entre le tracteur, les poules et les ruches. Ils se déploient rapidement sous les oliviers avant d'encercler la maison. Tout à coup, plusieurs hommes sont entrés et se sont mis à hurler tellement fort que je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, raconte l'infirmière. Elle tire le rideau. Je me suis retrouvée en face de quatre gendarmes, je n'ai vu que l'arme qu'ils pointaient. Autant de monde dans une si petite pièce, c'était proche de l'absurde. La bénévole de Médecins du Monde tente de rassurer Nasser, le jeune Soudanais s'étant mis à pleurer. Ce qui m'a le plus traumatisé, c'est le sentiment éprouvé par ses enfants. Il y a là une maltraitance morale qui dépasse les limites. On était tous saisis, choqués et sans parole. En moins de 30 minutes, les gendarmes font le tour de la propriété. Lucille, Morgan et les trois mineurs embarquent dans les voitures des gendarmes. Ces deux proches de Cédric Héroux ont été placés en garde à vue, confirme le procureur de la République de Nice. Quant aux moyens déployés, c'est une affaire humainement hors norme, répond-il. La garde à vue de Cédric Héroux est prolongée de 24 heures. Non présent lors de la perquisition du domicile, son conseil, maître Zia Oloumi, juge ces mesures disproportionnées. On a quasiment affaire à une brigade antiterroriste, dit-il. Cédric Héroux a été interpellé du coup pour des faits qualifiés d'aide à l'entrée et au séjour. Donc on vous rappelle que Cédric Héroux connaîtra le verdict du tribunal le 10 février. 8 mois de prison avec sursis ont été requis à son encontre. On rappelle aussi par exemple que Pierre-Alain Manoni, qui avait été jugé en novembre pour avoir aidé des migrants à Nice, a été relaxé début janvier, mais que le parquet a fait appel de cette décision. Et du coup, dans ce contexte de répression plus que disproportionnée, si ce n'est inhumaine, on a appris aujourd'hui que la journaliste rédactrice en chef de L'Âge de Fer, Lisa Giacchino, a été en garde à vue à la PAF de Menton. Elle a été arrêtée pour aide aux migrants alors qu'elle réalisait un reportage du coup dans la vallée de la Roya dans le cadre de son dossier consacré à « Cette France qui accueille ». Donc dans cette région frontalière de l'Italie, des dizaines de migrants tentent tous les jours de rejoindre la France. Pour le dossier du prochain numéro de L'Âge de Fer, Lisa Giacchino accompagnait ces personnes qui hébergent, nourrissent et soignent ces migrants. Donc elle a été en garde à vue pour aide aux migrants à la police aux frontières de Menton depuis 5h du matin. On a su sur le site de L'Âge de Fer qu'à 12h40, la garde à vue de Lisa Giacchino était levée. Le site remercie alors pour tous les soutiens qui avaient été prodigués et vous encourage à suivre sur toujours ce même site internet de L'Âge de Fer la poursuite de cette affaire.
Et maintenant c'est l'international.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et dans la rubrique internationale, on va commencer par un petit tour en Russie pour parler de la loi concernant les violences familiales qui a été votée par le Parlement russe cette semaine. Donc cette loi a été portée par une députée ultra-conservatrice du nom de Yelena Mizulina. Le point principal de cette loi, c'est que les violences domestiques ne seraient plus considérées comme un crime passible de deuxième prison, comme c'est le cas aujourd'hui, mais comme une simple infraction, passible d'amende et au pire de travaux d'intérêt généraux. Pour justifier cette loi, Yelena Mizulina dit « Dans la culture de la famille traditionnelle russe, les relations sont construites sur l'autorité. Les lois doivent soutenir cette tradition familiale. » Donc cette loi viendrait aggraver une situation déjà bien catastrophique parce que en Russie, 97% des dossiers relatifs à la violence familiale n'arrivent jamais au bout d'une procédure de justice. Et les violences conjugales en Russie ont fait l'objet d'une étude chiffrée là en 2015 qui révèle que près de 36 000 femmes subissent quotidiennement la brutalité de leur conjoint, tandis que 26 000 enfants sont agressés par leurs parents tous les jours. Et voilà, c'est ça les traditions familiales que les conservateurs veulent protéger pour préserver l'autorité patriarcale. Le texte de cette loi, les députés l'ont voté presque à l'unanimité. Il n'y a qu'un seul parlementaire sur 370 à la Chambre basse qui ont voté contre ce projet. Et le texte est désormais entre les mains des parlementaires de la Chambre haute qui peut choisir de l'approuver à son tour ou de le rejeter. Le dernier mot peut revenir au président Poutine, ce qui ne constitue pas un très gros espoir. En juillet 2016, du coup, Poutine avait déjà été dans le collimateur de la communauté internationale avec la loi sur la dépénalisation des violences domestiques lorsqu'une lésion corporelle n'était constatée. Donc aucune lésion corporelle n'était constatée. Mais l'indignation générale est vite retombée et ça n'a pas incité Moscou à renoncer parce qu'on voit même que le retour en arrière du coup va bon train avec cette nouvelle mesure qui apparaît donc quelques mois plus tard seulement. Bien sûr, les femmes sont les premières victimes de cette nouvelle mesure. On voit que les femmes dans le monde entier sont de plus en plus nombreuses à lutter contre l'oppression patriarcale, mais que les forces ecclésiastiques et réactionnaires contre-attaquent assez violemment. On a vu que c'était le cas en Espagne, on a bien vu ça en Pologne, en Irlande, et c'est aussi plus que jamais le cas aux États-Unis, dont on va parler tout de suite.
Ouais, quelle transition, dis-donc. Et oui, donc vous avez dû en entendre parler. Hein. Aujourd'hui, c'était l'investiture de la pauvre tâche américaine. Et ça, on ne va pas vous en parler. Mais par contre, demain se prépare la grande Women's March on Washington pour défendre les droits des femmes et des minorités, maintes fois prises pour cible par donc Donald Trump, la pauvre tâche. Cette marche pourrait bien être une des manifestations les plus importantes de l'histoire américaine. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est quand même plus de 200 000 personnes qui ont indiqué sur les réseaux sociaux ou autres qu'elles y participeraient. Et ce sont quelques 600 marches sœurs prévues le même jour dans tout le pays à l'étranger, comme en France par exemple, dont on vous donnera les détails pour Lyon juste après.
Et alors, juste pour te couper un instant, il y a des manifs qui ont déjà eu lieu apparemment à Washington.
Oui,
juste
on a
avant
vu ça tout à l'heure.
On a vu ça tout à l'heure,
c'est vrai.
Il y a du riot porn voilà. sur Internet. En fait.
Et donc, pour l'idée de la marche de demain, qui a un peu quand même subi quelques tensions et quelques modifications, elle est partie à la base, et comme souvent un peu aujourd'hui, par un message d'une femme sur un compte Facebook pour proposer donc de manifester. Et puis, ça a rapidement été relayé et suivi par de nombreuses femmes, mais aussi par beaucoup d'associations diverses. Et du coup, depuis, c'est un peu l'effervescence comme ça. Toutefois, le manque de diversité de l'équipe organisatrice de départ, puisque c'était que des femmes blanches, ainsi que le premier nom de la marche qui devait être Million Women March, soit marche du million de femmes, on nourrit pas mal les critiques. Le souci avec ce nom, c'est qu'il rappelait celui d'une manifestation de femmes noires, justement absente des premières revendications, organisée à Philadelphie en 1997. Le mouvement qui se foule, il est donc inclusif, est apparu comme une affaire de femmes blanches. Dans une tribune publiée le 9 janvier sur le site du New York Times, une professeure en études africaines écrivait « Cet événement est le marqueur d'une tendance historique dans laquelle les femmes noires sont seulement des interlocutrices périphériques dans ce qui est censé être les droits des femmes et les droits humains. » Donc, après ça, le nom de la marche a été changé, même si aujourd'hui il ne fait pas toujours l'unanimité, puisqu'il rappelle aussi la marche sur Washington de 1963, à l'occasion de laquelle Martin Luther King avait raconté son célèbre rêve. Alors, certaines se défendent en disant que c'est justement un clin d'œil à cette marche-là.
Et en parallèle, dans une volonté de non-exclusion, le comité d'organisation s'est donc diversifié. De plusieurs femmes de plusieurs nationalités font partie maintenant du comité d'organisation. Et dans les déclarations de principe, il est explicitement fait référence aux femmes blanches, noires, amérindiennes, pauvres, immigrées, musulmanes, lesbiennes, femmes trans, etc. Le mouvement est donc devenu celui de la diversité de la société américaine. Les organisatrices revendiquent maintenant un mouvement inclusif auquel tout le monde peut s'identifier et participer, mais aussi intersectionnel. Il est précisé, nous reconnaissons que les femmes ont différentes identités qui s'entrecroisent et qu'elles sont par là concernées par une multitude de questions de justice sociale et de droits humains. La marche des femmes ne se présente pas spécifiquement comme un rassemblement anti-Trump, mais comme un mouvement impulsé par les femmes rassemblant des personnes de tous les sexes, âges, races, cultures et étiquettes politiques. De nombreuses organisations progressistes ont donc apporté leur soutien à l'initiative. On nous trouve maintenant des défenseurs des droits civiques, des immigrés, des musulmans, des militants de l'environnement, de l'avortement, de la contraception, des drogues douces, des féministes, des pacifistes, des homosexuels, des amérindiens, etc. Par exemple, on peut lire du coup sur le site de l'organisation de la marche ceci.
Alors je vais vous le lire. La rhétorique utilisée pendant la campagne a insulté, diabolisé et menacé bon nombre d'entre nous. Femmes, immigrés de tout statut, croyants en diverses religions et en particulier les musulmans, les personnes s'identifiant comme LGBTQIA, ceux qui ont la peau noire ou brune et handicapés, personnes pauvres ou ceux ayant été agressés sexuellement. La marche des femmes à Washington enverra un message à notre nouveau gouvernement au premier jour de leur mandat et au monde que les droits de la femme sont des droits humains.
Voilà donc pour rapidement Washington et puis ce qui est prévu de se passer un peu demain. Et donc comme on vous le disait au début, en France il y a aussi des démarches comme ça qui vont être organisées demain un peu partout et donc notamment à Lyon là, ce qui nous intéresse. Il y a un communiqué qui a été fait, qui a été signé par plusieurs associations et du coup la marche qui est organisée demain après-midi à 14h, on vous le redira. Et donc voici un peu ce que le tract dit.
Nous, féministes françaises, ne pouvons rester indifférentes alors que le nouveau président de la première puissance mondiale s'apprête à appliquer l'idéologie violemment sexiste, LGBT-phobe, xénophobe et raciste qu'il a défendue durant toute sa campagne. Nous ne pouvons rester silencieuses quand il envisage de nommer à la Cour suprême William Prior, juge qui considère que l'avortement est, je cite, « la pire abomination de l'histoire du droit », que son vice-président, Mike Pence, promeut ouvertement des thèses créationnistes et que son principal conseiller, Steve Bannon, publie sur son site des messages racistes et misogynes haineux. Nous assistons, depuis de nombreuses années, à une remise en question des droits des femmes. Cette manifestation sera également le moment de soutenir toutes les femmes en lutte, partout dans le monde, pour le droit à l'avortement, comme en Pologne, contre les violences faites aux femmes et les féminicides, comme au Chili, en Turquie et en Tunisie, pour le droit des personnes LGBT, comme en Turquie, en Russie, pour tous les anonymes, toutes et toutes les anonymes, qui disent tous les jours stop à toute forme de violence, comme toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour le droit des femmes, faisons entendre la voix des femmes.
N'oublions pas aussi qu'en France, de nombreux combats restent à mener pour l'égalité et contre toute forme de violence. Les politiques d'austérité, la montée des extrêmes droites et les extrémismes religieux imposent plus que jamais des régressions pour les femmes.
La loi Rebsamen, la loi Macron qui facilite le travail du dimanche et de nuit, et la loi travail précarise encore plus la situation des femmes.
La diminution drastique des dépenses publiques met en danger les services publics et touche particulièrement les femmes. Menaces sur les gardes d'enfants, sur l'accès au droit à l'IVG, 150 centres d'interruption volontaire de grossesse fermés en 10 ans, sur l'accès aux soins, notamment l'éloignement des services de maternité.
La diminution, voire la fin des subventions publiques menace l'existence même des associations féministes qui œuvrent tous les jours pour les femmes.
Les courants extrémistes ont réussi à faire enterrer les ABC d'égalité à l'école et menacent le droit à l'IVG, remettent en question le mariage pour toutes et tous et refusent la PMA pour toutes les femmes.
Devant ces dangereux signaux envoyés à toutes les femmes et hommes des progrès du monde, nous témoignerons notre solidarité avec la Women's March des Américaines en organisant à Lyon un rassemblement similaire demain à 14h, place de la Comédie.
Donc demain, 14h, place de la Comédie.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Et oui, et c'est, vous l'avez reconnu, l'agenda.
Je n'ai pas mon micro qui est allumé. Voilà, c'est l'agenda. Donc, ce soir, il faut que je fasse très vite. Ce soir, il y a soirée sur les ZAD. Donc, c'est au Clameur. C'est jusqu'à 22h. Ça a déjà commencé.
Le Clameur, c'est un bar à la Guillotière. Et l'adresse, c'est.
Et l'adresse, eh ben, je n'ai pas l'adresse sous les yeux.
Rue d'Aguesseau.
Ouais, c'est d'Aguesseau. Croisement rue d'Abéchamp, rue d'Aguesseau et rue Béchevelin, juste à côté de la Guillotière.
Voilà, merci pour ce complément d'information. Demain, qu'est-ce qui se passe? Il y a une manif, donc on vous l'a dit tout à l'heure. Donc un rassemblement, donc place de la Comédie à 14h en solidarité avec les féministes américaines et avec toutes les femmes en lutte. Ensuite, même heure, il y a le Stop CETA, donc c'est une journée d'action européenne. Donc voilà, avec ce sera une déambulation, machin. Et il faut, et il faut venir avec sa casserole. Donc voilà, voilà. Et c'est place Bellecour.
Ça se part de la place Bellecour. Ouais.
Voilà, ensuite, dimanche. Dimanche, qu'est-ce qui se passe? Donc à 14h à Jean Massé, manifestation donc pour justice et vérité pour Adama. Ensuite, le 23 janvier, lundi, rassemblement avec les salariés de Médialis en lutte. Donc ça, c'est à 10h.
C'est qui les salariés de Médialis, s'il te plaît?
Alors attends, mais...
C'est les amis TCL.
Bah alors j'ai très peu d'infos sur ma petite fiche en fait. J'ai juste rassemblement avec les salariés à 10h. Donc du coup,
mais d'ailleurs le Rue Salat. Mais je crois que c'est Rue Salat dans le deuxième.
C'est Rue Salat dans le deuxième.
Exactement, ça c'est Rue Salat dans le deuxième, juste à côté de la place de la République.
Et ils ont été invités dans le Canu Info du mercredi. Vous pouvez écouter pour avoir plus d'infos.
Et voilà. Et alors attends, mais alors ça c'est quel jour? Parce que en fait c'est tout mélangé.
Jeudi 26 janvier.
Non, il y a la permanence, donc le lundi, c'est le lundi, ouais c'est ça, il y a la permanence qui est.
Lundi 10h.
Donc juridique pour les soutiens aux sans-papiers, donc ça c'est à 18h30 et c'est à la Lutine, il me semble-t-il.
Rue Montesquieu.
Voilà, 91 rue Montesquieu. Bah voilà, mais je vais m'arrêter là parce qu'en fait après je vais jusqu'à fin janvier. Et ben voilà, c'était le Canu Info.
D'ici là,
paniquez pas.
Et niquez tout.
Et maintenant, c'est Noise Pollution.
On a été le premier groupe à être banni d'Angleterre.